En Arabie Saoudite, l'Ukraine et les États-Unis sont parvenus à un accord pour soumettre à la Russie une proposition de cesser le feu de 30 jours. Washington a également annoncé reprendre le partage de renseignements et l'aide à la défense de l'Ukraine. On parle de tout cela avec Nicolas Tenzer. Il est spécialiste des questions géostratégiques et auteur d'un livre intitulé « Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique ». Voilà Nicolas Tenzer. Il est au micro de Blaise van der Linden.
Nicolas Tenzer, bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka pour cet entretien du 18h. Alors hier, l'Ukraine a décidé de soutenir une proposition américaine de cesser le feu de 30 jours avec la Russie. Les États-Unis ont accepté de lever leurs restrictions sur l'aide militaire et sur l'échange de renseignements avec les forces ukrainiennes. Êtes-vous optimiste face à cette proposition de cesser le feu de 30 jours ?
Écoutez, d'abord... Pour l'instant, on n'en sait rien. On n'en sait rien, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout comment la Russie va réagir. La Russie, on le sait, est la puissance qui agresse l'Ukraine depuis maintenant 11 ans, de manière totale depuis 3. Elle n'a jamais montré la moindre envie, évidemment, de faire la paix, ça on le sait, mais même de consentir à un cessez-le-feu. Maintenant, je crois que ce sera un test pour la puissance américaine, comme le dit très justement le président Zelensky, c'est-à-dire qu'est-ce que les États-Unis si la Russie n'accepte pas, vont véritablement sévir à son encontre, quand je dis sévir, c'est de manière militaire, ou bien est-ce que les États-Unis, comme il semblait quand même l'indiquer, vont se ranger du côté de Poutine, en demandant à l'Ukraine de faire des sacrifices. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en tout cas, il y a eu, je crois, une très grande habileté tactique manifestée par les Ukrainiens. D'abord parce qu'on sait que la proposition de trêve ou de cessez-le-feu, c'était quelque chose que le président Zelensky lui-même portait depuis très longtemps, et ça a été repris par les États-Unis. Ensuite, que les États-Unis ont accepté de revenir sur leur décision absolument incompréhensible et très dangereuse de cesser leur aide militaire à l'Ukraine et de cesser le partage du renseignement. Maintenant, même si cette trêve tient, ça ne veut pas dire, et c'est là aussi, je pense, le deuxième élément de réponse à votre question, ça ne veut pas du tout dire qu'on s'achemine vers la paix, parce que la Russie ne veut pas la paix, la Russie veut dominer l'Ukraine, l'anéantir, et donc ça, on le sait. Et est-ce que les États-Unis, qui pour l'instant ont manifesté quand même une certaine convergence idéologique, si je puis dire, avec Moscou, vont rester sur ces bonnes dispositions d'hier ou bien retourner à leurs anciennes amours?
Oui, justement, les États-Unis ont soufflé le chaud et le froid depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. On peut leur faire confiance malgré cette proposition qu'eux-mêmes ont posée sur la table?
Écoutez, sur ce qu'ils ont dit là lors de la réunion de Jeddah, oui. Sur le long terme, je suis beaucoup moins certain, parce que on a quand même vu les pressions exercées sur l'Ukraine et sur le président Zelensky absolument inadmissibles. On dit finalement il va falloir qu'il fasse des négociations, qu'il cède peut-être une partie des territoires. Les États-Unis, jusqu'à présent, ont dit pas de garantie de sécurité de notre part, pas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Même si vous avez un déploiement de troupes européennes en Ukraine, eh bien nous n'apporterons pas ce qu'on appelle le backstop, c'est-à-dire le filet de sécurité de la puissance américaine pour assurer aussi ces troupes européennes. Donc il y a eu quand même des signaux extrêmement fâcheux. On sait aussi qu'il y a eu cette résolution, vous savez, à l'Assemblée générale des Nations Unies, où la Russie a voté en même temps que les États-Unis, la Corée du Nord et de manière, je trouve, inadmissible, Israël d'ailleurs, en refusant de condamner l'agression russe contre l'Ukraine. Voilà, donc pour l'instant, je crois que je suis, en tout cas, il faut rester, je crois, très modéré, plutôt pessimiste de nature, en espérant que une sorte de grâce aura illuminé Trump et qu'il aura compris que les États-Unis, compte tenu de leur tradition de défense de la liberté, ne peuvent pas s'aligner avec le criminel génocidaire qu'est Poutine.
Alors, je vais vous poser une question peut-être un peu cynique, mais on parle donc d'un cessez-le-feu de 30 jours. Quel serait l'intérêt de ce cessez-le-feu ? Parce que vous l'avez rappelé, cessez-le-feu ne signifie pas paix.
Alors, d'abord, il y a un premier intérêt, s'il tient, pour les populations ukrainiennes, c'est d'avoir tout simplement pendant 30 jours un peu de répit, un peu de sommeil d'ailleurs concrètement pour les habitants de la plupart des villes d'Ukraine. Vous savez, quand depuis plus de 3 ans, quasiment tous les jours, vous avez des alertes à la bombe, vous devez descendre aux abris, parfois d'ailleurs vous n'y descendez pas, vous avez les infrastructures électriques qui sont frappées, vous avez chaque fois des morts, parfois des dizaines, parfois des centaines de civils assassinés par les forces russes. Pendant 30 jours, respirer, dormir, ne pas craindre de mourir voilà, pendant une attaque au petit matin ou la nuit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça permettra aussi aux Ukrainiens de réparer, je pense, les centrales électriques qui ont été atteintes par les bombardements russes. Ça leur permettra de renforcer encore leur production de gros drones. Il faut rappeler que les Ukrainiens sont la première puissance mondiale en termes d'ingéniosité technologique sur les drones. C'est absolument extraordinaire. Mais là, voilà, en 30 jours, ils vont pouvoir redévelopper encore mieux leur production. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt, d'abord humanitaire, à cette trêve pour l'Ukraine.
Alors, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, a déclaré que les Européens allaient, selon ses mots, devoir être impliqués dans le processus diplomatique, alors qu'on a vu J.D. Vance venir assommer les Européens, hein, littéralement, il y a quelques semaines maintenant. L'Europe est de retour au milieu des négociations?
Alors, je ne sais pas si elle est au milieu des négociations, parce que je pense qu'il faut faire aussi très attention, côté européen, à ne pas souscrire à un accord de paix qui serait un faux accord de paix. C'est-à-dire un accord qui, d'abord, accepterait que l'Ukraine soit amputée, qu'elle n'entre pas dans l'OTAN, et que, finalement, renforcerait Poutine et lui permettant d'avoir un délai supplémentaire de 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour renforcer son économie et renforcer en particulier ses capacités militaires. Donc là, les Européens doivent faire très attention à ne pas entrer, ne pas mettre le doigt dans cette mécanique-là. Ils auraient plutôt intérêt, s'il devait y avoir un tel accord, à s'y opposer et à dire qu'ils ne l'acceptent pas. Maintenant, ce qui est tout à fait certain, c'est qu'aujourd'hui, en termes de retour sur la scène internationale, oui, les Européens le sont, et ils le seront d'autant plus qu'ils auront pris la décision de s'armer de manière massive, de s'affranchir en partie de la dépendance par rapport aux États-Unis. D'ailleurs, en Belgique, vous le savez bien, avec l'histoire des F-35, voilà, qui n'ont pas été livrés à temps, et on s'aperçoit que pour la sécurité de l'Europe, être trop dépendant des armes américaines, c'est une mauvaise chose. Voilà, et donc là, on sait aussi que la solution à moyen terme quant à l'Ukraine, mais aussi pour le devenir de pays comme la Géorgie, la Moldavie, etc., ce sera un avenir qui sera décidé en Europe, ce ne sera pas décidé aux États-Unis. Et donc, on peut dire que la présidence Trump, vous savez, récemment, le Financial Times a ironisé, a dit, bon, mais Trump, il n'aura pas le prix Nobel de la paix, mais peut-être il aura le prix Charlemagne du meilleur Européen, parce qu'il aura renforcé l'Europe.
Pour terminer cet entretien, il y a peu de temps, le Kremlin a annoncé qu'il y allait avoir des contacts directs entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ils sont prévus dans les jours à venir, toujours selon le Kremlin. Cela fait depuis l'invasion russe, enfin pas depuis 2014, mais depuis 3 ans maintenant que Vladimir Poutine est au banc des nations, qu'on ne s'entretient pas avec lui. C'est nécessaire de parler avec Vladimir Poutine via Donald Trump?
Alors, écoutez, moi, je constate que Trump l'a fait. Personnellement, je ne l'aurais pas fait. Moi, je considère, il ne faut pas l'oublier, que Vladimir Poutine est un criminel de guerre, enfin, qui est en tout cas inculpé de crimes de guerre. Il n'est pas encore condamné, parce que la Cour pénale internationale ne condamne pas par contumace, mais qu'il est quand même inculpé de crimes de guerre depuis le 17 mars 2023 par cette Cour pénale internationale, qu'il est un fugitif, légalement, recherché par 125 polices du monde, et je pense qu'il est très dangereux de le normaliser. C'est ce que Poutine recherche. Il cherche à faire apparaître son pays et lui-même comme des entités respectables. Et je pense que c'est extraordinairement dangereux pour le droit international que de prêter le flanc à cela. Maintenant, Trump le fera, parce que d'abord, il faut rappeler que les États-Unis ne sont pas partis au statut de Rome qui définit la Cour pénale internationale, et on peut uniquement espérer que la conversation qu'il aura avec lui ne sera pas comme la précédente. Parce que ce qui a filtré de la précédente, peu de temps après l'investiture de Trump, c'était quand même que Trump avait tout cédé, même au-delà, à Poutine. Il avait même devancé ses désirs, avant même que des soi-disant négociations aient commencé. Donc il faut espérer que ce deuxième coup de fil ne soit pas analogue à celui-là.
Et on y reviendra évidemment dans les prochaines semaines. Nicolas Tenzer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions géostratégiques, auteur de Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique. À bientôt.
À bientôt, merci à vous.